Un petit tour au jardin. Une émission présentée par l'association Jardin Nature Pibrac.
Bonjour et bienvenue pour ce 34e numéro Un petit tour au jardin. Avec le printemps, c'est l'effervescence au jardin.
Oui, les beaux jours font sortir le jardinier et chacun voudrait semer et planter à tout va. Cependant, méfiance. Nous avons encore des risques de coups de froid et de petits matins frisqués.
Les fameux seins de glace font-ils frissonner nos jardins?
Et selon la tradition, il y a un coup de froid autour des dates des fêtes de Saint-Mamé, Saint-Pancras et Saint-Servais. Traditionnellement, ces fêtes sont célébrées les 11, 12 et 13 mai de chaque année. Ces saints sont invoqués par les agriculteurs pour éviter l'effet d'une baisse de température qui pourrait être observée à cette période et qui peut amener du gel. C'est ce qu'on appelle le phénomène de la lune rousse. Une fois cette période passée, le gel ne serait plus à craindre.
Mais qui étaient-ils ces saints? Par lequel commençons-nous?
Eh bien, on va commencer par Saint-Mamère. Il était peut-être, on n'est pas très sûr, et né à Lyon. Par contre, ce dont on est sûr, c'est qu'il est devenu prêtre un demi-siècle avant le baptême de Clovis. Et toute sa vie dans l'église se déroula durant les invasions des barbares. Il était évêque de Vienne, en Dauphiné. Il était là quand les Burgondes s'installèrent dans la vallée du Rhône. Bon, par contre, il ne semble pas qu'il ait réussi à les convertir. Mais il est surtout célèbre pour avoir institué la prière des rogations, à la suite de plusieurs tremblements de terre, inondations et sécheresses. Donc il imagina de faire 3 jours de suite des processions dans les champs pour demander au ciel que cessent tous ces fléaux. Le pape Léon III les rendit obligatoires, ces rogations, dans toute l'Église au IXe siècle. Le Saint-Mamère serait mort en 477. Son corps a été transporté au 7e siècle à Orléans, où il fut son corps a été brûlé par les calvinistes et ses cendres ont été dispersées. Saint-Mamère a laissé le souvenir d'un bon pasteur, soucieux de ses ouailles, même les plus élémentaires.
Et alors, qui arrive ensuite?
Eh bien, on va parler de Saint-Pancras. Ce serait Saint-Pancras de Rome. Il est né, selon la tradition, vers 289 ou 290, d'une famille noble de Phrygie. Ayant perdu ses parents, il fut confié aux bons soins de son oncle paternel Denis. Cette famille possédait une grande fortune. Tous deux se sont rendus à Rome, convertis au christianisme par le pape Corneille. Le jeune garçon fut dénoncé comme chrétien. Il comparut devant l'empereur Dioclétien. Et il fut décapité, il avait 14 ans. Ses reliques sont vénérées à la basilique San Pancrazio à Rome, basilique qui a été érigée en son honneur en 604. Ces reliques furent profanées par l'invention française en 1798. Elles furent en partie sauvées et conservées au palais de Latran et solennellement rapportées à la basilique de San Pancrazio en 1814. Son culte devint très populaire. Saint Pancras incarne, bien sûr, l'innocence et la foi de l'enfance.
Et le petit dernier, alors, qui est-il?
Eh bien, c'est Saint Servais. On dit de lui qu'il est né en 300 à Penestria, en Arménie, qu'il aurait été ordonné prêtre à Jérusalem, et au cours de cette cérémonie, un ange serait apparu. Ange qui lui ordonna de se rendre à Tongres, où il fut évêque. Il est le premier évêque attesté du district romain de Tongres, qui deviendra plus tard le diocèse de Liège en Belgique. À la cité romaine de Tongres, il préféra la ville mosane de Maastricht. Saint Servais mourut à l'âge de 84 ans, en 384. Ses reliques ont été transportées à Tongres, de Tongres à Maastricht, où se trouve encore son sarcophage. Saint Servais était un saint très populaire. Il y a 19 églises en Belgique et plusieurs localités qui portent encore aujourd'hui son nom.
Mais alors, qu'est-ce qui prédisposait ces saints à devenir ces symboles de météo? Car dans leur vie, on ne voit pas trop le lien avec la météo.
Statistiquement, en plus, le gel survient très rarement lors de ces saints de glace. Les températures minimales lors de cette période sont contrastés, bien sûr, d'une année sur l'autre, et même si des gelées de plaine ne sont pas impossibles après les saints de glace. Bien qu'il s'agisse d'une légende, la tradition millénaire a pris le pas et certains jardiniers actuels attendent généralement la mi-mai pour planter en extérieur les plantes gélives, les tomates, les courgettes. Bien sûr, le réchauffement climatique vient aussi bouleverser cette tradition.
Dans nos potagers, nous avons donc des légumes qui ne se portent pas les gelées.
Eh oui, tous les légumes qui sont riches en eau sont forcément très sensibles au gel. Les cristaux se forment dans la plante et augmentent le volume. Et bien sûr, la peau externe des légumes peut attendre et va se fendre. On ne parle pas d'engelure, mais bien de gélifure. Gélifure, pardon. La tomate en est un parfait exemple. Si vous avez déjà vu ce fruit juteux prendre un coup de froid, vous avez forcément remarqué les crevasses qui sont formées par le gel. Les légumes gélifs sont les suivants. Il y a l'aubergine, le piment, le poivron, le concombre, la courgette, les courges de façon générale. Les haricots n'aiment pas non plus prendre un coup de froid, le maïs, les melons, les pastèques. Et puis bien sûr, on vient d'en parler, la tomate.
Quels légumes supportent le gel et les températures inférieures à moins 5 degrés?
Alors, on pourrait les appeler les stars de l'hiver. Hein. C'est les légumes qui supportent le mieux le gel. Eh bien, il y a l'ail et l'oignon, il y a le céleri rave, il y a le chicorée, les choux frisés ou paumés, le cresson, les épinards, la mâche. Vous voyez, il y a quand même pas mal de légumes. On va retrouver aussi l'oseille, la laitue d'hiver, le poireau, les radis d'hiver, les salsifis, les topinambours, les persils.
Et maintenant, quels sont les légumes qui supportent les températures entre moins 4 et moins 2 degrés?
Eh bien, pour les températures qui restent au-dessus de moins 4, il y a certains légumes qui peuvent être gardés en place. Par exemple, les artichauts, les asperges, les betteraves, les blettes, les choux-fleurs. Vous voyez, il y a encore un peu de choix, les fèves, les navets, les roquettes, les rutabagas.
Et le paillage en hiver est-il un bon isolant?
Et bien sûr, couvrir le sol est essentiel en été, bien sûr, pour éviter l'évaporation, et puis aussi en hiver pour protéger du gel. Lorsque les températures baissent, le paillage crée une forme d'isolant pour protéger le sol de ce gel. Et bon, comment faire? Eh bien, on peut rassembler des feuilles mortes, de la paille ou même de la paillette de chanvre. Couvrir la terre au pied des légumes et des arbres avec une couche d'au moins 10 cm.
Et les voilages d'hiver pour protéger les légumes du vent froid sont-ils une bonne chose?
Les voiles d'hivernage sont une très bonne protection des plantes contre le froid. Les voiles permettent de couper les vents glaciaux et puis ça permet en même temps de garder une aération correcte. On peut créer un tunnel aussi pour protéger les légumes ou envelopper les arbres fruitiers et les arbustes sensibles.
Des nouvelles de l'association Jardin Nature Pibrac?
Nous vous donnons rendez-vous bien sûr sur notre site internet jardinnaturepibrac toutattaché.org. Vous y retrouvez toutes les dates et les détails de nos conférences et ateliers. Merci à tous et à la semaine prochaine pour un autre petit tour au jardin. D'ici là, profitez bien de votre jardin.